Bonjour à tous. Les Belges, principalement inquiets pour leur pouvoir d'achat. Voilà la conclusion de notre grande enquête nationale. Nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés financières. La princesse Elisabeth reçoit aujourd'hui son diplôme de la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis. À 24 ans, elle entend maintenant prendre un peu de recul. Et puis, il reste deux Belges en lice à Roland-Garros. Elise Mertens et Raphaël Collignon jouent aujourd'hui leur deuxième tour. Bienvenue à tous, les Belges préoccupés donc en premier par la situation économique. C'est l'un des enseignements de l'enquête nationale 2026. Elle a été réalisée par l'ULB, l'université d'Anvers, en collaboration avec la VRT et De Standaard. Plus de 5300 Belges ont été interrogés. Baptiste Tupin, le pouvoir d'achat apparaît désormais comme la principale inquiétude.
Oui, la situation économique est considérée comme le principal problème en 2026 par 20% des sondés. Parmi les 10 préoccupations les plus citées dans l'enquête nationale, 5 sont liées au pouvoir d'achat, comme l'emploi, les taxes ou l'énergie. Des préoccupations qui s'inscrivent dans un sentiment plus large de crise. 75% des Wallons et 69% des Bruxellois estiment que l'état de l'économie belge s'est détérioré au cours de l'année écoulée.
Baptiste, les Belges ont donc une vision plutôt pessimiste de la situation économique.
Effectivement, et cela se traduit aussi par des difficultés financières concrètes. À Bruxelles et en Wallonie, 30% des sondés disent que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs besoins. Dans l'enquête nationale, nous avons demandé de citer des dépenses que les sondés ne peuvent pas se permettre. Environ un tiers des Wallons et des Bruxellois déclarent ne pas pouvoir acheter de voiture. Autour de 30% se dit incapable d'affronter une dépense imprévue.
Et tous les résultats détaillés de l'enquête nationale sont à retrouver sur le site RTBF Info. Quand on veut se lancer dans une activité professionnelle, pas toujours facile de savoir si ce que l'on va proposer aura du succès ou non. Et le secteur alimentaire n'échappe pas à la règle. Alors une solution est de pouvoir faire un test grandeur nature de ses produits. À Charleroi, c'est possible grâce à un food truck partagé. C'est Charleroi Entreprendre qui le met à la location. Reportage de Laurie Cailloub.
Quelques asperges à griller et voilà Caroline prête à vendre ses tacos dans le food truck baptisé QG pour quartier gourmand.
Alors juste devant vous, vous avez deux sauces.
Et mis à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent se roder.
L'intérêt du QG en fait c'est vraiment de confronter son produit au marché. J'en ai eu besoin pour vraiment tester mon image de marque et tester le prix de mes produits. Et donc j'ai réalisé un testing ici au centre Charleroi en octobre où il y a eu 50 personnes qui sont venues déguster les produits.
Caroline a lancé son activité avec son propre food truck depuis 2 mois, impensable sans l'étape des tests avec ce food truck partagé.
C'est vraiment le dernier aspect qui me manquait pour lancer le food truck et pour voir en fait si la clientèle allait répondre présente. Ça permet en fait d'avoir moins de pression en termes logistiques et de pouvoir profiter à fond et de tester son produit.
Depuis octobre, plusieurs dizaines de projets ont déjà été testés. Ce food truck partagé répond à une demande. Jacques Hiernaud, accompagnateur de projet chez Charleroi Entreprendre.
Je chipote un petit peu dans ma cuisine et demain peut-être je loue éventuellement un local. Voilà. Nous en tout cas on essaie de faire le pont entre ces deux passages et rendre cela plus accessible aussi pour les porteurs de projets.
Comptez entre 50 et 100 euros pour une location d'une journée.
En bref, le vote de la loi programme est attendu aujourd'hui en séance plénière. Il aurait dû avoir lieu la semaine passée, mais il avait à nouveau été reporté. Les libéraux d'Anders ayant obtenu que le texte soit renvoyé en commission affaires sociales. Pour rappel, ce texte contient plusieurs réformes du gouvernement fédéral, notamment le plafonnement de l'indexation des salaires et des allocations sociales. Elle devient aujourd'hui la princesse la plus diplômée de sa génération en Europe. La princesse Elisabeth reçoit son diplôme de master en politique publique à Harvard. Avant, elle a déjà obtenu un baccalauréat international au Pays de Galles et puis un bachelier en histoire et politique à Oxford. Le roi et la reine sont sur place à Harvard aux États-Unis aujourd'hui pour assister à la fin du parcours académique de leur fille. La princesse Elisabeth qui s'est confiée à la presse expliquant qu'elle compte prendre maintenant un peu de recul. Reportage de nos envoyés spéciaux Marco Saccomano et Daniel Velter à Harvard.
Visiblement pas encore prête pour une interview télé, la princesse Elisabeth a préféré réserver les premiers mots de sa nouvelle vie à 4 journalistes de la presse écrite. Valérie Drouven, journaliste au Standard, et Martine Dubuisson au Soir nous racontent.
Son irlandais était super bien, elle parle comme un quiet bruxellois, je veux dire.
Elle est arrivée comme une étudiante comme les autres, en toute simplicité, naturelle, elle était d'ailleurs en jeans.
Ce qui aura surtout marqué ces deux journalistes, c'est le destin de reine qu'Elisabeth assume pleinement.
Elle dit, ben voilà, depuis ma naissance, je sais que ce sera mon chemin. Et c'est bien de savoir vers où je vais. Manifestement, pour elle, c'est un petit côté rassurant.
Sa réponse était remarquable, je trouve. Elle prend son sort, elle dit « c'est mon chemin ».
Pour autant, la duchesse de Brabant ne se voit pas reine tout de suite. Elle va d'abord prendre une grosse année de transition.
Elle a dit « je veux prendre du recul d'abord et un peu voir comment je vais régler tout ».
Donc elle ne va pas tout de suite se lancer dans son rôle de représentation en tant qu'héritière, donc représenter le roi par exemple, ou prendre la présidence des missions économiques princières. Ce ne sera pas pour 2026, ce ne sera pas pour 2027.
La passation de pouvoir avec son père, le roi Philippe, ce n'est pas pour tout de suite.
Les États-Unis ont à nouveau mené des frappes sur l'Iran cette nuit malgré le cessez-le-feu en vigueur. Les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir visé une base américaine en riposte à ces attaques. Aline Gonsalves, ce sont les affrontements les plus graves depuis le début de la trêve.
Oui, les États-Unis disent avoir abattu 4 drones iraniens et mené des frappes au sol dans le sud du pays. Des actions défensives, mesurées et qui visent à maintenir le cessez-le-feu, dit un responsable américain. L'Iran lui affirme avoir répliqué en frappant une base américaine sans préciser laquelle, mais l'armée koweïtienne annonce, elle, faire face à des attaques menées par des missiles et des drones. Les forces iraniennes ont par ailleurs effectué des tirs de semonce à l'intention de 4 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. C'est ce que dit la télévision d'État iranienne. Ce détroit, justement, il ne sera pas contrôlé par l'Iran et Oman, affirme le président américain. Donald Trump dément l'existence d'un protocole d'accord qui prévoirait la gestion commune par ces deux pays de l'important point de passage.
Le détroit sera ouvert à tous. Ce sont des eaux internationales. Personne ne va les contrôler. Oman se comportera comme les autres, ou alors il faudra les pulvériser.
Une menace qui a surpris. Oman, c'est un allié de longue date des États-Unis. Les deux pays entretiennent des liens étroits sur les plans économiques et militaires. À moins que le président ait dit Oman au lieu de dire Iran, ce ne serait pas la première fois que Donald Trump confond des noms de pays. L'agence France Presse a demandé des clarifications à la Maison Blanche, pour l'instant sans réponse.
Et ce regain de tension au Moyen-Orient a fait bondir à nouveau les prix du pétrole. Du côté du sud Liban, l'armée israélienne a lancé cette nuit un appel à évacuer plusieurs bâtiments dans la ville de Tyr et les environs. Malgré la trêve en cours, Israël a annoncé intensifier ses opérations terrestres et aériennes contre le Hezbollah. L'armée israélienne a averti hier qu'elle considérait comme une zone de combat tout le territoire libanais au sud du fleuve Zaranis, à une 40aine de kilomètres de la frontière. On passe au sport en tennis. Il reste 2 Belges à Roland-Garros. Ils disputent aujourd'hui le 2e tour. Elise Mertens sera opposée à la Polonaise Maja Jwalinska en début d'après-midi. Du côté des hommes, le Belge Raphaël Collignon, 64e joueur à l'ATP, se retrouve face à l'Américain Ben Shelton. Le Liégeois ne part pas favori. Cela lui enlève une partie de la pression, ce qui lui a souvent réussi.
Chaque fois que j'ai rien à perdre, je l'ai déjà prouvé par le passé, j'ai réussi à battre des très très bons joueurs, des top 10, des top 15, des top 20. Donc c'est sûr que je vais jouer libéré, parce que j'ai rien à perdre. Après, je pense que évidemment il y aura un petit peu de stress au début, surtout jouer contre un joueur comme ça, mais je pense que j'ai rien à perdre et il va falloir essayer de jouer ma chance à fond et on verra un peu comment ça va aller.
Une interview réalisée par Christine Anquet, match à suivre sur Tipeee en télé et sur Ovio. Et puis en football, les Anglais de Crystal Palace ont remporté la finale de la Conference League. Victoire 1-0 face aux Espagnols du Rayo Vallecano. C'est le premier titre européen de l'histoire du club londonien. Voilà qui marque la fin de ces infos. Que vous soyez. Merci de nous